Bonjour Laurent, bonjour à tous. Comment vivrons-nous en 2050 ? Quels sont les grands défis que les hommes auront à relever ? Quel avenir s'offre à nous ? Comment penser les progrès des technosciences ? On continue notre série de l'été, c'est votre rendez-vous avec le futur chaque samedi matin. Et je reçois Bernard Stiegler, philosophe, directeur de l'Institut de recherche et d'innovation du Centre Pompidou, c'est à Paris. Bonjour.
Bonjour.
Nous sommes entrés, dites-vous, de plein pied dans l'ère des technologies dites transformationnelles. Lesquelles ?
Alors, on pourrait dire que toute technologie est transformationnelle, mais on parle aujourd'hui de technologie transformationnelle au sens où ce qu'on appelle principalement les biotechnologies, les micro et les nanotechnologies, crée de toute évidence un processus de rupture, je ne vais pas y aller avec le dos de la cuillère, hein, si vous me permettez cette expression, colossale, puisque je crois qu'il rompt avec une histoire de 3 millions d'années. Il n'y a pas de doute que lorsqu'on a affaire à ce qu'on appelle des organismes génétiquement modifiés, on a affaire à un réaménagement du vivant lui-même. Ça produit deux effets, ce processus. D'une part, ce processus de transformation, il conduit à une instabilisation du socle naturel. Parce que la révolution industrielle qui a eu lieu au 19e siècle maintenait une espèce de socle de stabilité qui
oui,
était la
matière. Oui, il y a des choses qui ne changeaient pas.
Il y avait la matière, on pensait qu'il y avait des règles et des lois de la matière qu'on pouvait pas toucher, et il y avait le vivant et on pensait qu'il y avait des lois de la vie, la biologie, etc. qu'on pouvait pas toucher. Or maintenant c'est faux, c'est plus le cas. On peut indubitablement produire ce qu'on appelle des matériaux nanostructurés, des organismes génétiquement modifiés, des matières atomiquement modifiées. Pourquoi ? Parce que des technologies sont apparues nouvelles, qui sont le microscope à effet tunnel, qui permet de manipuler la structure atomique, et évidemment la bioinformatique et toutes ces choses-là, et en particulier les enzymes de restriction qui permettent de modifier le biologique.
Mais Bernard Stiegler, que voulons-nous transformer ? Quelles possibilités ? Retenir ou non ? Ces questions relèvent moins pour vous d'une question éthique, mais d'une question politique et économique. Pourquoi ?
Parce que cette instabilité, ce que j'appelle maintenant les sables mouvants de la nature, on est sur une nature très mouvante, qui produit énormément d'anxiété. Ça se produit où, à un moment où, par ailleurs, les grandes entreprises qui investissent dans ces domaines sont elles-mêmes soumises à des actionnariats qui, eux, sont, comme on les appelle, très spéculatifs, c'est-à-dire qu'ils ne spéculent que sur le très court terme. Et donc, on voit qu'on a affaire à une mutation de très long terme, 3 millions d'années, c'est quand même pas rien. Et ça nous oblige à nous projeter dans un très long terme, y compris au moment où nous savons par ailleurs que notre modèle industriel a atteint ses limites. On sait très bien qu'on doit changer ça. On sait très bien que, en effet, ces technologies peuvent, elles sont porteuses de beaucoup de dangers, mais elles sont aussi porteuses de beaucoup d'espoir. Elles peuvent modifier en profondeur, par la manière dont nous traitons la transformation de la matière, elles peuvent développer des technologies propres, etc. Ça, c'est tout à fait certain. Mais ça n'est pas possible si c'est piloté par des gens qui ne spéculent qu'à 24 mois. Donc, il est fondamental d'avoir une politique à long terme. Mais cette politique à long terme, elle ne reposera pas sur des décisions de technocrates, elle reposera sur une confiance retrouvée de la société.
C'est en ce sens que vous comprenez l'inquiétude du public face à toutes ces nouvelles technologies. Il y a quand même une méfiance énorme.
Ben
on
oui,
le voit sur les OGM,
par
exemple.
Ils ont perdu confiance. Pourquoi est-ce que c'est comme ça ? Nous sommes dans une société où les membres de cette société adhèrent de moins en moins à cette société. Il y a un rejet de la société par cette société. Pas au sens de 68, pas au sens de foule de jeunes qui seraient avec un dans la tête d'autres modèles alternatifs, etc. Mais c'est pas une méfiance, c'est une défiance. C'est extrêmement grave. Pourquoi ? Parce qu'il n'y a pas de projet.
Mais quel contrôle exercera-t-on réellement sur les implications de ces nouvelles techniques ? Et peut-on imposer une responsabilité ?
Je suis convaincu, j'ai créé même une association Ars Industrialis qui travaille à essayer de projeter un avenir par rapport à ça. Je suis convaincu qu'un nouveau modèle industriel est en train d'émerger. Et c'est un modèle de responsabilité partagée. Pourquoi est-ce que je dis ça ? Sur Internet, qu'est-ce qui se passe ? Vous avez entendu, tous les auditeurs ont entendu parler de Wikipédia, du logiciel libre, de toutes ces pratique où l'on voit des internautes s'investir énormément dans de la production collective. Ils n'entendent rien d'autre que le plaisir qu'ils prennent à le faire, d'ailleurs, mais ils produisent de la valeur économique. Ils produisent de l'intelligence collective. Et je pense qu'ils produisent de la responsabilisation. Lorsque vous utilisez un logiciel libre, par exemple, vous pouvez faire évoluer ce logiciel. Et donc, vous avez une connaissance interne du logiciel, vous avez le droit, vous êtes tout à fait légitime à chercher à le faire évoluer. Vous êtes impliqué dans la technologie, vous en êtes responsable, comme celui qui le porte au niveau de son développement.
Mais qu'est-ce qui vous fait penser, Bernard Stiegler, que cette intelligence collective que vous appelez de vos voeux va résoudre les problèmes, alors que pour l'instant, tous les nouveaux médias ont plutôt été, je dirais, dans le temps de cerveau disponible, pour reprendre une célèbre phrase.
Elles ne résoudront évidemment pas les problèmes spontanément. Et là, bien entendu, moi je ne suis pas un contemplateur béat du numérique. Le numérique peut au contraire servir à développer de la biométrie, des technologies de contrôle. Par exemple, aujourd'hui, on peut vous surveiller absolument en permanence avec le numérique. Parce que vous passez un coup de fil quelque part, on sait où vous êtes, à qui vous parlez, etc. Internet, il y a ce qu'on appelle les cookies, qui observent vos comportements, qui les formalisent, qui les exploitent, etc. Et ça pourrait, aujourd'hui, c'est une exploitation marketing et commerciale. Demain, ça pourrait être une exploitation policière. Donc, je suis pas du tout en train de dire qu'Internet, c'est le paradis, du tout. Et aujourd'hui, il faut inventer un nouveau modèle de vie collective qui permette de faire que ces nouveaux milieux techniques, que sont les milieux numériques, permettent de produire de l'intelligence là où, en effet, jusqu'à maintenant, les médias ont surtout produit du temps de cerveau disponible, c'est-à-dire du cerveau sans conscience, sans attention et donc sans intelligence. Enfin, et quand je dis ça, je prends pas les téléspectateurs pour des imbéciles, j'en suis là, moi aussi, nous en sommes tous là. Et ça, c'est possible de changer cette situation. Lorsque Jules Ferry a décidé en 1880 que 20% du budget de l'État, d'un seul coup, serait consacré à faire que les petits paysans français, qui représentaient quand même 80 ou 90% de la jeunesse française, deviendraient des enfants cultivés, qui connaîtraient ce que c'est les rudiments des mathématiques. Et d'un seul coup, il a fait franchir un saut à la société. Pourquoi on ne fait pas ça? Fondamentalement, ce qu'il faut, c'est changer la conscience collective des problèmes. Il faut investir dans l'intelligence de tout le monde, pas simplement de quelques experts ou technocrates élitaires.
Et pour conclure, Bernard Stiegler, au vu de cette mutation profonde qui s'annonce, énorme, comment définir les limites de notre puissance, voire de notre impuissance?
Alors là, on retourne aux questions d'éthique pour le coup. L'éthique, ça vient du mot ethos, en grec qui veut dire le séjour, c'est-à-dire là où j'habite. Il faut savoir où sont les limites de l'espèce humaine. Chez les Grecs, ils disent « nous sommes entre les bêtes, nous ne devons pas nous comporter comme des bêtes ». C'est-à-dire que nous devons être capables de nous projeter dans une élévation nous-mêmes, mais nous ne devons pas pour autant nous prendre pour des dieux. Sinon, ce qui nous arrivera, c'est l'histoire de Icare,
qui se brûle les ailes
près du soleil et qui retombe. Il faut savoir où nous sommes. Donc, il faut apprendre à raisonner autrement. Et ça, c'est difficile parce que jusqu'à maintenant, toutes ces questions qui sont liées à la technique étaient rejetées par la tradition littéraire, politique et philosophique, étaient complètement ignorées. Donc, il faut réinscrire la technique au cœur du projet philosophique, politique, juridique, économique, etc.
Merci Bernard Stiegler. Alors vous pouvez podcaster cette émission sur notre site franceinter.com. Le livre de Bernard Stiegler et de l'association Ars Industrialis s'intitule « Réenchanter le monde, la valeur esprit contre le populisme industriel ». C'est publié aux éditions Flammarion et c'est une réflexion sur les médias d'aujourd'hui. Très bon week-end à tous, à samedi prochain Laurent.